Bonjour les amis. Nous avons travaillé à 5-6 au lieu-dit la maison de prière à ramasser les poubelles. Ça fait déjà depuis 10-12 ans, quelquefois que nous ramassons des centaines de bouteilles, de poubelles, etc. Et nous vous demandons de prier pour cet endroit que certains maudissent par excellence et que nous nous bénissons, qui est à la frontière française, nous le bénissons et nous espérons un jour qu'un donateur ou l'autre puisse aider à ce projet de manière sérieuse. Voilà, afin de pouvoir accueillir d'abord la population française qui habite pas loin de là. Et la frontière est à 15 mètres de la maison. Nous vous demandons de prier beaucoup cette année pour la conversion de beaucoup d'hommes et de femmes, la repentance de beaucoup de femmes, d'hommes, d'enfants, de personnes âgées, d'athées, d'opposants à la foi. Je vous demande de prier beaucoup pour la conversion, la repentance. Aujourd'hui, lorsque je suis arrivé là-bas à ce lieu, dit la maison de prière, un homme m'a apporté la feuille qu'on avait donnée à l'église. On avait donné une feuille avec toute une série de méditations et vous pouvez la recevoir si vous la demandez. Cette feuille. Je vous l'ai lue. Je vous rappelle quelques versets du début et puis de la fin. Je regarde jusqu'au fond de ton cœur, je sais tout de toi, je sais quand tu t'assieds, quand tu te lèves, je vois quand tu marches et quand tu te couches, je connais parfaitement toutes tes voies. Bon, bien sûr, c'est des extraits du psaume 139. Il y a beaucoup d'autres extraits de Jérémie, etc., du Nouveau Testament aussi. Et puis, ça se termine comme ceci. Si tu acceptes mon fils Jésus, tu me reçois. Rien ne te séparera de mon amour. Dans ma maison au ciel, il y a tant de joie pour un pécheur qui change de vie. J'ai toujours été ton père et serai toujours ton père. Ma question est, veux-tu être mon enfant? Je t'attends. Ton père qui t'aime, Dieu t'aime. Et figurez-vous que c'est un beau cadeau. C'est véritablement un encouragement pour commencer cette année. Il est très difficile d'évangéliser, de voir des âmes qui se donnent avec joie à Christ dans notre région. Vraiment avec joie, sans retenue. C'est très difficile. C'est très rare. Mais cet homme, qui a 55 ans, qui a été maçon, plâtrier, etc., homme de finition, qui avait aussi appris à être boulanger, qui a un long parcours professionnel et qui a eu beaucoup de détresse à un moment donné quand on l'a connu, ben cet homme-là, maintenant, est joyeux, joyeux. Et il répond à la question. Ma question est, veux-tu être mon enfant? Je t'attends. Ton Père qui t'aime, Dieu Tout-Puissant. C'était ça qui était signé en dessous de la feuille. Et alors il répond ceci. Père, Dieu, voici ma réponse. Oui, par le baptême. Ton enfant qui t'aime, tu as effacé mes larmes. Voilà, et franchement, nous sommes le 3 janvier. Et nous pouvions avoir 15 ou 20 engagements de ce genre cette année-ci. Quelle bénédiction, après tant d'années de difficultés à évangéliser. Pourquoi? Pour encourager la jeunesse de notre Église qui prend la relève. Et qui arrive à tenir les cultes de manière noble, de manière honnête, profonde, spirituelle, même quand je ne suis pas là. C'est le Seigneur qui les dirige, et c'est l'œuvre du Seigneur qui continue avec eux. Alors voilà, que cette année soit bénie, et priez pour la repentance, dites à beaucoup de se repentir, de changer de vie. Cette petite feuille, vous pouvez tous la voir en 10, 20 exemplaires, si vous voulez, pour la distribuer. Et vous pouvez aussi la photocopier vous-même, ça me coûterait moins cher, et la distribuer. avec sérieux, évidemment. Et bien sûr, si la personne n'a pas un évangile, dites-lui de regarder sur YouTube l'évangile de Jean, Jésus de Nazareth selon l'évangile de Jean, durée 3h15, ou celui de Luc, durée 2h. Et il est clair qu'un petit évangile, un Nouveau Testament, peut suivre. On dépense facilement de l'argent à des bêtises. Et vous pourriez me dire, voilà, moi je commande 10 évangiles ou 20 évangiles, je les distribuerai cette année-ci, ou pendant les 5 mois qui viennent, 6 mois. Et ça collaborerait, disons, à tout le travail que nous avons entrepris depuis si longtemps, et qui a été possible grâce à la bénédiction du Seigneur, grâce à beaucoup d'amis français, des chrétiens, qui ont veillé à nous envoyer des dons sur Amébi, la mission Amébi, dont le siège est à Toulon. C'est vraiment une grande bénédiction d'avoir des donateurs si fidèles. Et nous en rendons grâce, ici, toute notre famille, volontiers. Et si vous nous écoutez, nous vous remercions infiniment de tout cœur. Bonne et heureuse année. Bonne et heureuse année. Alors, nous allons prendre la parole de Dieu en main et nous allons l'approfondir aujourd'hui, encore une fois de plus. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 10. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 10. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Donc mort, c'est-à-dire séparé éternellement de Dieu, n'est-ce pas? Et sans vie spirituelle, sans vie divine. Il est parfois difficile de comprendre ces versets, mais demandez au Seigneur de vous éclairer. Demandez au Seigneur de vous éclairer sur certaines choses que vous avez vécues, vous avez faites. Même que peut-être aucun de vos amis, aucun de vos proches ne sait. Et vous verrez que vous étiez complètement en porte-à-faux, en opposition avec la volonté divine. Vous comprendrez que vous avez besoin du salut. Aucun de nous n'est parfait, aucun de nous ne mérite d'être sauvé. C'est par grâce que nous sommes sauvés, par le sang de Jésus à la croix. Aucun de nous ne mérite. Par soi-même, il ne peut gravir le ciel et s'installer auprès de Dieu, dans sa gloire. Il faut être invité par les Écritures, par le Saint-Esprit, et il faut être béni. Béni. Il faut recevoir le Saint-Esprit de la part de Christ quand on confesse ses péchés. Mais je pense qu'il faut être baptisé aussi, par immersion, s'il vous plaît. Pensez bien que baptiso, ça veut dire immerger, c'est enfoui, mort à la vie passée, ressortir, vivant en Christ ressuscité, une vie nouvelle en Christ. C'est un grand symbole que le baptême par immersion, qui ne donne pas le salut, mais enfin c'est l'image d'une réalité que, dans laquelle vous êtes engagé, dans laquelle Dieu vous a aussi engagé. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, en conformité avec tout le monde, un grand conformisme, hein, le mimétisme, hein, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de rébellion. Donc Satan agit et il a une particularité, c'est qu'il nous a rendus rebelles à la volonté divine. Parce que Adam et Ève ont écouté Satan, nous avons été gangrénés et nous avons cet esprit rebelle à l'égard de la volonté divine. Même le plus brave, le plus gentil, personne n'y échappe. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Donc les convoitises, pour certains, c'est « Oh là là, je vais me faire vacciner hein, pour le Covid, et comme ça je ferai tous les restos, j'irai manger. Hein. Je fais mon paradis sur terre, hein, c'est autant une bonne vaccination, un rail, un pass sanitaire, et puis... Je consomme. Hein. Et vous savez que je réfléchissais à ça C'est quand même incroyable l'attirance sexuelle et l'attirance gastronomique. Ce sont deux éléments importants dans la culture européenne. Ça s'est développé d'une façon anormale. Selon les convoitises de la chair, il y a aussi l'amour de l'argent, l'amour du bien-être. Quand je pense à ses frères et ses sœurs qui, au Pakistan, l'homme, la femme, les enfants travaillent dans 15 heures dans la boue à faire des briques pour gagner 1,5 € tous ensemble, 1,5 € sur la journée, quand on leur donne. Et nous ici, 1,5 €, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait, chers amis? On se donne du plaisir avec nos petits euros. Eh bien, c'est quand même renversant. Aujourd'hui, nous avons eu la visite d'un ancien réfugié qui a vécu chez nous pendant longtemps, 2, 3 ans, et qui était sans papier, mais sans papier, et dont toute l'administration belge refusait la demande. Pourtant, il était né, il avait grandi dans une région du Soudan, au milieu du Soudan, là où il y a du pétrole et là où il y avait toujours toutes les bagarres. Il avait été enlevé par des milices musulmanes, il était un petit soldat et il devait aller piller les villages chrétiens avec la milice musulmane. Un jour, il s'est sauvé, évidemment, il ne supportait plus ça, et il a été aidé par deux personnes âgées, un homme et une femme musulmane, à passer la frontière libyenne, et puis il a vécu en Libye. Et il a vécu durement, comme un petit chien qui a dû travailler, comme ceux que nous fréquentons par un WhatsApp en Irak. Il a vécu comme un chien. Il a grandi là et courageusement, courageusement, il se tournait toujours vers le Seigneur. Il a accumulé un petit peu d'argent. Il a appris à faire le métier de peintre en bâtiment. Puis il a essayé plusieurs fois de passer la Méditerranée. Échec. Échec, tempête, etc., arrestation des barques par les vedettes de la police italienne. Bon, un jour, bien sûr, il fallait prendre un autre procédé. On l'a mis dans un conteneur de marchandises, qui était chargé sur un bateau pour la Turquie. Et là, on lui a mis plusieurs bouteilles d'eau, du pain. Le passeur, bien sûr, il a dû donner beaucoup d'argent pour ça, qu'il avait gagné difficilement, et quelques bougies et sa Bible. Il était enfermé là dans le conteneur. Le conteneur a été jusque en Turquie, et puis de là, le bateau est reparti vers le détroit de Gibraltar. Il a traversé toute la Méditerranée en longueur. Il est arrivé à Antwerpen, Anvers, en Belgique. Et là, quand les ouvriers, les dockers ont ouvert le conteneur, ils l'ont vu, ils l'ont dit de déguerpir. Imaginez dans quel état il devait être. N'est-ce pas? Dans son urine, etc. Imaginez dans quel état il était. Dans l'obscurité pendant peut-être 2, 3 semaines. Et dans quel état nerveux. Et puis après, il a fallu partir vers Bruxelles et se mettre dans une file, dans une longue file, pour aller présenter une demande d'asile. Et quand il a eu cette demande d'asile inscrite, on l'a envoyé dans un fait d'asile. Donc un centre pour réfugiés qui était à Virton, et de là, il est venu à l'église. Et puis il a été refusé, donc on l'a pris. Il était donc un clandestin chez nous, on l'a aidé. Nous recevions de l'argent de beaucoup d'amis français, des chrétiens. Nous pouvions aider comme ça des dizaines de réfugiés, grâce à cet argent béni, venu de Dieu. Mais en vain, on n'est pas arrivé. Le maire de la commune a beaucoup changé, a envoyé les policiers, etc. Et il a fallu qu'il se sauve en Allemagne. Et il y a cela 6 ans qu'il est en Allemagne, et il a appris l'allemand, il connaissait l'arabe, l'anglais, il a appris le français avec nous, et puis ensuite, il a appris l'allemand. Il parle couramment allemand, et il travaille. Et il a bientôt les papiers définitivement pour revenir. Je pense que ce garçon pourrait servir le Seigneur dans une mission allemande qui travaille sur l'île de Malte, de Chypre, sur les îles grecques, pour évangéliser les réfugiés qui arrivent là. Personnellement, j'ai cette conviction que Dieu lui a fait faire un parcours invraisemblable et lui a donné un bagage culturel, une expérience de vie, une expérience spirituelle et un amour. Il travaille, c'est un travailleur et un apprentissage de plusieurs langues, l'arabe, imaginez, l'anglais, le français, l'allemand. Et voyez avec cela ce qu'il pourrait faire. Et moi, il est venu au culte deux fois, il va retourner en Allemagne, à Hanovre, pour quelques mois. Quand il aura tous les papiers définitifs, il pense revenir s'installer ici. Mais ce n'est qu'une étape ici. Moi, je pense qu'un ministère pourrait convenir très bien à cet homme-là. Il faut beaucoup prier pour lui. Il s'appelle Raymond. Priez pour Raymond, car il pourrait être sur ces îles, dans la Méditerranée, pour apporter l'évangile. Il y a des missions allemandes, anglaises, françaises, qui sont là et qui travaillent. Et il faut des gens comme ça, compétents dans différentes langues, et qui ont été éprouvés eux-mêmes. Ils savent de quoi ils parlent. Et Raymond est un garçon. On a travaillé tout l'après-midi, ramasser les poubelles, à la maison de prière, ensemble, et tout ça. Il ne rechigne jamais sur le travail, jamais. C'est un homme propre, sérieux, et qui travaille. Priez pour sa santé aussi. Eh bien, je vais dire ceci. C'est que le prince de l'air n'est pas arrivé à l'entraîner à sa perte. Quoi qu'il soit, il lui soit arrivé. Le prince de l'air n'a pas eu autorité. Il a certainement été pécheur, comme tout le monde, par des actes, par des omissions, par des pensées malsaines. Et il est évident qu'il était fils de la rébellion. Mais à un moment donné, il y a eu un clash dans son âme où il a réellement compris l'amour de Jésus-Christ et il s'est donné à lui. On le voit, il est tout différent. Sa famille, c'est une famille très charmante qui habite à Montmédy, à 18 kilomètres. Et c'est notre église, sa famille. C'est ce qu'il dit. Chers amis, nous aimerions bien qu'il ait une vocation. Priez pour cela. Moi, je le ressens comme ça. Comme ce jeune garçon de 11 ans qui s'est converti il y a un an un peu plus à l'école, je ressens qu'il a un besoin vraiment d'être suivi et d'être amené à servir le Seigneur. Il a 11 ans pourtant. Il a le désir de faire quelque chose de beau de sa vie. Et notre petit Élie, le fils de Véronique, je pense aussi. Nous aurons peut-être une pépinière de Véronique et de Vincent, mais nous aurons peut-être une pépinière dans les mois, les années qui viennent, au sein de notre petite assemblée. Une pépinière de serviteurs. Donc si Paul dit « Nous étions de leur nombre, donc des fils de rébellion, nous vivions autrefois sur les convoitises de la chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Donc, toujours, toujours soumis à cet esprit de colère, qui est très dangereux dans l'humanité. Il fait énormément de dégâts. La colère correspond à un cœur non béni, un cœur chagriné, un cœur jaloux. C'est les faibles qui tombent en colère. C'est les faibles qui sont jaloux. Mais en attendant, ils font énormément de dégâts et la jalousie conduit le monde. La colère conduit le monde. Elle est destructrice. Et Paul a été transformé, complètement transformé. Totalement transformé. Comme je vois, cet ami Raymond, il est transformé aussi. Comme certains d'entre vous sont transformés. Ils ne sont plus des enfants de colère. Dieu qui est riche en miséricorde, donc qui exerce son amour et sa transformation, son pardon en nous, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce, donc cadeau immérité, que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a donc mis une place au ciel, elle est complètement réservée. Le jour que nous avons accepté Christ, nous avons cru en lui, la puissance de la résurrection du Saint-Esprit qui a ressuscité Christ, qui a fait sortir du tombeau, cette même puissance est venue en nous. Cette puissance est là, elle nous fera sortir de notre tombeau et nous installera un jour dans les lieux célestes, sur le trône de Dieu Seigneur. C'est pour cela que Paul dit ceci, il nous a ressuscité ensemble, il se passe quelque chose d'anormal. Il nous a ressuscité ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, rappelez-vous, Noël vient de s'écouler. La naissance de Jésus, c'est l'irruption dans le monde d'une solution au désastre du péché. C'est la solution, la seule solution. Il n'y a pas d'autre nom par lequel l'homme peut être sauvé. Pour éviter d'être séparé de Dieu éternellement, Dieu a envoyé auprès de nous un homme saint, un homme rempli de grâce et de vérité, infiniment tout-puissant dans son amour, qui dans toutes les apparences était faible.
Nicole, est-ce que je pourrais...
Dans toutes les apparences était faible. Voilà. Donc Dieu a agi pour donner une solution à l'humanité, une solution de grâce gratuite. Gratuite. À nous de l'accepter ou pas. Alors, continuons, s'il vous plaît, ce qu'il est dit dans Luc chapitre 6, verset 11. Luc 6, verset 11. Ils se disent tous le mot pour téléphoner à cette heure-ci, mais pas facile. C'est vrai qu'ils ont peut-être essayé dans la journée et qu'on n'est jamais là, hein. On peut comprendre, hein. Vous voyez, Jésus, à un moment donné, guérit quelqu'un qui a la main sèche. C'est pour donner un exemple de caractère coléreux, caractère de rebelle que nous avons. Luc, chapitre 6, verset 6 à 11. Il arriva un autre jour de sabbat, donc le sabbat c'est de vendredi 18h à samedi 18h, que Jésus entra dans la synagogue, synagogain, ça veut dire lieu de rassemblement, de prière et d'enseignement, qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Une main sèche, c'est une main sans vie, sans force. C'est donc un homme qui ne peut plus gagner sa croûte, qui ne peut plus arriver à vivre. J'ai eu le cas, avant de faire l'institut biblique, un ouvrier de notre entreprise savait cela. Quand j'ai quitté pour faire l'institut était terminé, mais lui avait travaillé autre part et il était toujours au marteau pic. Et en tenant le marteau pic tout le temps dans la main, toute la journée, et les foreuses et le marteau burineur, il avait une main toute blanche, dont tous les vaisseaux étaient quasiment écrasés, spasmés, comme on dit. Il faisait des spasmes, il n'y avait plus rien qui passait. C'était vraiment comme un arbre mort, une branche morte sur un arbre. Nous avons prié au nom de Jésus, il a été guéri, il travaille toujours. Mais ce gars ne s'est pas converti. Le miracle ne provoque pas la conversion. Le miracle démontre la gratuité de l'amour de Dieu. Le miracle démontre la grandeur de la miséricorde de Dieu. Mais nous, notre petitesse, elle est toujours là. Nous pouvons ne pas accepter d'aimer Dieu. C'est ça la colère, c'est ça la rébellion. C'est son cas. Combien de fois c'est arrivé dans le ministère? Alors, souvent, Jésus a guéri, puis personne ne s'intéresse à Dieu, ni à lui. Sur 9 lépreux, un est revenu. Et encore, parce qu'il était samaritain, tout compte fait. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir, d'avoir sujet de l'accuser. Donc, ils sont en colère contre lui. Mais il connaissait leurs pensées. Il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, tiens-toi là, au milieu, donc en présence de Dieu. » Il se leva et se tint debout. Et Jésus leur dit, « Je vous demande s'il est permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Jésus va fort, hein. Mais c'est clair, c'est la même. Il veut percer l'abcès de la méchanceté, de la colère venimeuse qu'il y a dans le cœur de l'homme. Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, étends ta main, et il le fit, et sa main fut guérie. Ils furent remplis de fureur et se consultèrent pour savoir ce qu'il ferait à Jésus. Vous avez l'expression même de personnes qui n'en ont rien à cirer, comme on dit, qui ne veulent pas reconnaître la personne de Jésus. Aujourd'hui, lorsqu'on parle du Seigneur Jésus à des personnes, il se passe le même phénomène. Mais pas toujours. Il arrive qu'après des années, après quelques jours, quelques semaines, ou 10, 20, 30 ans, que des personnes, tout d'un coup, ont abandonné la fureur et la colère et sont humbles. Ils ont été brisés par quelques événements. En tout cas, ils se sont humiliés, ou Dieu les a humiliés. Comme dit David dans le psaume 119, « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. » Alors, si Dieu veut nous faire sortir de cette colère et de cette rébellion, c'est parce qu'il y a un grand bénéfice. Et juste dans Luc, juste après, dans le même chapitre, chapitre 6, verset 12, « En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. » Il passa toute la nuit à prier. Extrêmement important quand Christ, de savoir que Christ prie pour nous, est toujours notre intercesseur, notre avocat. C'est extrêmement important, chers amis. Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres, envoyés. Vous avez le même texte en Marc, au chapitre 3, et il est mis clairement dans Marc qu'il les appela pour les avoir avec lui. Or, en grec, le mot « avoir avec lui » n'existe pas, c'est « koinonia », les avoir en union avec lui. Le cadeau que Dieu veut faire, c'est une réconciliation. C'est une union, c'est une vie partagée. Et vous savez, la petite puce que nous sommes à côté de l'océan de vie, d'amour de Dieu, qu'est-ce que c'est? Nous avons tout à gagner à accepter l'océan d'amour et de vie de Dieu. Que sommes-nous à côté de cette montagne infinie d'amour? Et donc, il y a un moment donné où, dans notre psychisme, dans notre cœur, dans notre conscience, on aperçoit que la vraie vie est là en Jésus-Christ. On l'aperçoit. Mais il faut que des écailles tombent des yeux, des bouchons sortent des oreilles. Jésus est le médecin des âmes. Jésus est patient et miséricordieux. Prenons Luc, chapitre 7, verset 51. C'est pour ça que je vous dis, conseillez toujours. Hein, Luc 7, 51, ça n'existe pas. C'était 8. Chapitre 8. Dans le chapitre 8 de Luc, de versets 40 à 56, il y a deux événements. Il y a la guérison d'une femme, au verset 43, qui a une perte de sang depuis 12 ans, qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. C'est le verset 43. Et dans un texte parallèle, elle perdait presque tout le mois, elle perdait son sang, quasiment. On pourrait croire que ça n'existe pas. Eh bien, moi, je suis tombé dans mes visites sur une personne qui avait au moins 26, 27 jours de saignement abondant par mois. Et elle ne l'a plus. Elle ne l'a plus. C'est parti, ce mal. C'est le Seigneur qui l'a fait. La conversion n'est venue que beaucoup plus tard après. Le signe de l'amour que Jésus veut donner doit être suivi d'une réflexion de la part de l'être humain et d'une ouverture de son cœur, d'une docilité. Bien sûr, la docilité se prépare par les signes de Dieu. Il y a eu d'autres signes dans la vie de cette personne. et la docilité est venue, alors que c'est une personne de colère, de grande colère, de grande rébellion. Et chers amis, il y a nul doute, toute porte reste ouverte pour les pécheurs au nom de Jésus. Personne n'est rejeté par Jésus. Il faut savoir que tant que Jésus ne revient pas comme juge et comme roi, que le temps de la grâce est toujours là. Et nous, chrétiens, nous ne pouvons pas nous insurger et poser des jugements sur des personnes en disant « ça ne va jamais marcher, ça ne servira à rien, j'ai perdu mon temps avec cette personne-là. Bof, il y en a des autres qu'elle ou que lui. » Jamais penser ces choses-là. Jamais. Car nous offensons l'amour infini de Christ pour chacune de ses créatures. Nous portons atteinte à la noblesse de la grâce que Jésus-Christ propose aux hommes. Et quand on a cette attitude, il faut absolument se repentir. Alors, dans ce texte de Luc, chapitre 8, cette femme qui est guérie, bien sûr, il y a un autre problème. C'est cet homme, ce chef de synagogue. Ce chef de synagogue, au verset 41, se jette aux pieds de Jésus et le supplie d'entrer dans sa maison, verset 42, parce qu'il a une fille unique d'environ 12 ans qui se meurt. Mais Jésus est pressé, il est interrompu tout le temps, et semble-t-il, il arrive en retard, un peu comme pour Lazare. Mais pour Dieu, il peut arriver à l'heure, à la seconde même. Dieu est partout. Si Dieu semble être en retard, ce n'est pas qu'il ne sait rien, qu'il ne voit rien, qu'il ne nous aime pas. C'est quelque chose qu'il faut tirer de notre tête. Quand Dieu n'est pas tout de suite là, on ne le voit pas agir et répondre à nos suppliques, à nos besoins, ce n'est pas pour ça que son amour est moindre. Jamais. Notre foi doit augmenter. Alors, bien sûr, quelqu'un, au verset 49, arrive de chez ce prêtre, de Jaïrus. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue, quelqu'un disant, ta fille est morte, n'importune pas le maître, c'est pas plus la peine qu'il vienne, n'insiste plus. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement, elle sera sauvée. Crois seulement, c'est-à-dire prioritairement, fais, accepte de croire en moi. Ne t'occupe pas du reste. Tout le reste n'écoute pas. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, Jean et Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient, se lamentaient sur elle. Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle dort. Donc, elle vient d'interrompre sa respiration et elle va la reprendre. C'est une question d'une heure, peut-être. 30 minutes. 2 heures. C'est de la bagatelle pour Dieu, la mort. Pour Dieu, la mort, c'est de la bagatelle. Il est tout puissant. Pourquoi nous laissons-nous effrayer par la mort? Osée l'a annoncé au chapitre 13. Ô mort, où est ta victoire? Aiguillon de la mort, où es-tu? Etc. Et Paul reprend ces versets-là dans 1 Corinthiens 15. Alors, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle dort. Il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. De nouveau, l'esprit de colère et de rébellion. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi, Talitha Koumi. » Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle se leva, Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, il leur recommanda de ne rien dire à personne de ce qui était arrivé. Pourquoi? Jésus n'a pas besoin de la gloire des hommes. Il est suffisamment riche en lui-même. Il n'a pas besoin des folies humaines pour savoir qui il est. Des applaudissements. S'il avait voulu, il serait né à l'époque d'Internet. Mais non. Il est né à l'époque où il n'y avait rien de tout ça. Quand j'étais, mes amis, en 2008, en octobre, devant le Golgotha, ce lieu infâme, ce trou perdu, Ou de toute façon, tout le monde considérait que Jésus, là, c'était fini, terminé. Qu'on n'en parlerait plus jamais. Ce lieu infâme est devenu un lieu de gloire, car Jésus a offert sa vie pour nous. Et Dieu a fait connaître cet endroit. Dieu a fait connaître la grandeur de la croix. Et le tombeau qui est à 80 mètres, Dieu a fait connaître la grandeur de ces deux hommes qui ont mis dans le tombeau, ils étaient riches, dans leur tombeau, ce Jésus de Nazareth, avec tellement de respect et d'amour. Que ce Jésus a été honoré par eux, certes, mais surtout par les anges qui, le dimanche matin, le lendemain du sabbat, l'ont fait sortir. C'est Dieu qui a honoré son Fils. Les anges ont été l'instrument de la gloire du Père pour démontrer la puissance de l'amour de Christ, la puissance de la miséricorde divine qui nous est donnée en Jésus-Christ. Donc voilà, c'est clair que les parents de la jeune fille sont dans l'étonnement, ils ne savent pas trop quoi penser. Quand il y a un miracle dans notre vie, il nous faut du temps pour le digérer. Alors, j'ai bien sûr d'autres textes à lire avec vous. Prenons Luc, chapitre 2, verset 40 et 49. Luc 2, verset 40 et 49. Ce petit enfant qui naît, qui est dans le ventre de Marie, qui est déposé, qui n'a pas de code génétique de sa mère, ni de Joseph, qui vient là, c'est la nouvelle Adam, c'est la nouvelle humanité qui commence. La nouvelle humanité, c'est le prototype même du nouvel homme et de ceux qui veulent le suivre par la foi, qui l'acceptent, qui deviennent de nouveaux êtres en l'Esprit. L'Esprit Saint. Cet enfant grandit. Au verset, Luc 2, verset 40, l'enfant croissait, se fortifiait, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Bon, un peu plus loin, dans le même chapitre, il a grandi encore et les parents vont, comme ils sont obligés, ensemble, toute la famille, une fois parents à Jérusalem, adorer l'Éternel. Les hommes y vont trois fois, mais la femme, les enfants doivent accompagner le papa au moins une fois sur les trois. Et ce qui se passe, c'est que Jésus n'est pas là. Ils se rendent compte après une journée de marche, sur le retour, que Jésus n'est pas avec eux. Ils paniquent. Et quand ils le retrouvent, ils disent ceci, verset 48. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi tu agis de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Là, nous avons l'expression ce que veut dire le verset 40. « L'enfant croissait, se fortifiait, était rempli de sagesse. La grâce de Dieu était sur lui. » Il s'occupe des affaires de Dieu. Le reste n'a pas d'importance. Pourtant, il est l'aîné, il apprend, comme son papa, Joseph, à être menuisier charpentier, et quand Joseph décède, c'est lui l'aîné, il doit travailler avec les autres, et il doit montrer l'exemple jusqu'à l'âge de 30 ans. Et il va ensuite entrer dans le ministère public, par autorité de Dieu le Père, qui fait apparaître la colombe sur lui. Devant Jean-Baptiste, devant la foule. Mais Jésus s'occupait déjà des affaires de son Père lorsqu'il était dans l'amour, dans la sainteté envers les autres, dans sa famille et dans son voisinage. L'enfant était exceptionnel, il était sans péché. Et il s'occupe des affaires de son Père, c'est-à-dire il vit dans la sainteté et dans l'autorité du Saint-Esprit que le Père lui a donné. Il n'a pas reçu le Saint-Esprit le jour que la colombe est descendue sur lui dans le Jourdain, Là, c'était la confirmation, c'était la démonstration. Mais il était habité du Saint-Esprit, pleinement. Qu'est-ce qui se passe? C'est que Jésus parlait avec les prêtres. Verset 46, au bout des 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Il pose des questions. Ça, c'est un art. Il sait déjà tout. Mais il va poser des questions. Pourquoi? Parce que les hommes qui sont en face de lui le prennent pour un petit enfant qui ne sait rien. Donc, en posant des questions, il les met en demeure de répondre honnêtement. Et devant un enfant, on est souvent obligé d'être honnête. Ou alors, on explose en colère, on lui dit, va-t'en, tu nous embêtes. Qu'est-ce que tu viens faire là? Ça ne te regarde pas. Mais si on respecte l'enfant, on est obligé d'entamer le dialogue. Et de ce fait-là, Jésus a déjà certainement touché le cœur de Nicodème et de Joseph d'Arimathie et d'autres qui se convertiront après la Pentecôte. Jésus a été déjà le témoin de la vérité là. Il l'a dit à Pilate, je suis venu pour rendre témoignage de la vérité. Donc, ce que nous savons, c'est que Jésus a cette sagesse de rester dans la vérité et de la faire connaître aux humains. Il est le chemin, la vérité et la vie. Quel beau cadeau à Noël, n'est-ce pas? Quel beau cadeau. Alors, je voulais m'interroger un petit peu avec vous sur ce que disait Ésaïe. Ésaïe, le grand prophète de l'Ancien Testament, qui a parlé tellement de fois de ce Fils de Dieu qui devait venir pour sauver le monde. Prenons Ésaïe, chapitre 7. Ésaïe, chapitre 7, versets 14 et 15. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge, Alma, hein, donc la jeune fille, deviendra enceinte, elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Il mangera de la crème et du miel, donc il sera rempli de la sagesse divine, de la sainteté et de la divine parole de Dieu, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien, jusqu'à ce qu'il mène le combat public. Le ministère de dénoncer le péché et d'annoncer la vérité. C'est ça que ça veut dire. Jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Ça c'est autre chose, ça veut dire autre chose. Mais nous voyons ici qu'Ésaïe parle avec pertinence de quelqu'un qui pourra dénoncer le mal et montrer sa prédilection totale pour le bien. Ça, c'est important. Et il s'appelle Dieu avec nous. Prenons chapitre 8, verset 23. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Ésaïe 8, verset 23. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre, de honte, si vous voulez, de rejet, le pays de Zabulon, le pays de Nephtali, donc la Galilée, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, donc la mer de Galilée, de Tibériade, au-delà du Jourdain, le territoire des païens. Donc au-delà de cette mer, le territoire des païens sera même touché par cette lumière, et beaucoup d'hommes et de femmes sortiront des ténèbres, de la colère, de l'angoisse, de la révolte, de la rébellion, du péché. Ésaïe chapitre 1, verset 16. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Jean-Baptiste parlait comme ça, mais Isaïe aussi. On a raccourci Jean-Baptiste et on a raccourci Isaïe aussi. Vous voyez à quel point les enfants de colère peuvent aller jusqu'à l'extrême. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Cédez à sainteté. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez et plaidons. Donc passons au tribunal de Dieu, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, c'est-à-dire super rouge, ils deviendront blancs comme la neige. Ça veut dire que Dieu a décidé qu'il y a un temps où il pardonne le péché. Il offre sa miséricorde au pécheur. Il aime le pécheur, il n'aime pas le péché. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez, si vous êtes rebelle, vous serez dévoré par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Effectivement, Titus, en l'an 70, et plus tard, 6 légions pour mater Bar Kochba et toute l'insurrection des Juifs. 1,5 million de morts parmi les Juifs. Il est clair que quand Dieu parle, il faut le prendre au sérieux. Si nous ne prenons pas au sérieux, les conséquences peuvent être très fâcheuses pour nous. Nous allons aller maintenant dans Ésaïe 42, versets 1 à 9. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Donc, serviteur ici, Ebed-Yahvé, serviteur souffrant, humble, plus humble, que ça on ne trouve pas. Mais plus vrai que ça, on ne trouve pas non plus. Plus riche de cœur, plus riche de sainteté, on ne trouve pas. C'est ça que Paul dit dans la deuxième aux Corinthiens chapitre 8, Jésus-Christ nous a enrichis de sa pauvreté. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. Cette parole a été dite lors du baptême dans le Jourdain et dans Matthieu 17, dans la transfiguration sur le mont Hermon, en présence d'Élie et de Moïse. Voici mon élu en qui mon âme prend plaisir, j'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la sainteté, la justice aux nations. Et justice, je veux comprendre aussi ceci, la justification, c'est-à-dire le pardon des péchés. Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point la mèche qui brûle encore, il annoncera la justice selon la vérité. Par rapport aux pécheurs, il aura une patience remarquable, considérable, au point de ne pas briser un roseau déjà plié, au point de ne pas écraser la mèche qui fume encore un petit peu. Chers amis, ça c'est l'œuvre de Christ vis-à-vis de nous. C'est l'œuvre de Christ sur la terre aujourd'hui. C'est son ministère remarquable et saint, dans lequel Dieu appelle des hommes et des femmes à être les instruments pour propager cette grâce. Il ne se découragera point, il ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Donc, l'œuvre de Christ sera accomplie parfaitement un jour. C'est ce que Paul dit dans Thessaloniciens, ce qu'il a commencé en vous, il l'achèvera parfaitement. Et que les îles espèrent en sa loi, c'est-à-dire les peuples espèrent en sa loi, la loi du Saint-Esprit, la loi de la conversion, de la foi, pas la loi de Moïse. Ainsi parle Dieu l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent, et le souffle à ceux qui y marchent. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. C'est pour Christ. Ça, c'est le mandat. Le mandat, la mission de Christ qui est décrite ici. Pour ouvrir les yeux des aveugles. dont nous sommes tous, pour faire sortir de prison le captif, prisonnier du péché, du mensonge surtout, et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici, les premières choses se sont accomplies, je vous en annonce de nouvelles, avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Il ne la donnera qu'à Jésus-Christ. Le petit enfant qu'a vu Monsieur Siméon dans le temple. Siméon était là. Il savait qu'il verrait avant de mourir le Messie, le salut d'Israël et du monde. Quand il voit les parents passer avec ce petit enfant, il le prend dans ses bras et dit, mes yeux ont vu le salut. Et qu'est-ce qui se passe? Louis et Anne adorent Dieu. Verset 10, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges aux extrémités de la terre, vous qui voguez sur la mer et vous qui la peuplez, et les habitants des îles. L'adoration, chers amis. L'adoration pour une telle œuvre miraculeuse, la venue de Christ sur la terre, son ministère aujourd'hui, agissant et puissant. Nous sommes invités à adorer Dieu et son Fils Jésus-Christ. Nous allons prendre Ésaïe, chapitre 43, verset 8. Je vais commencer au verset 5. Ésaïe 43, verset 5. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, je te rassemblerai de l'Occident. C'est fait, 1948, Israël. Je dirai au septentrion, donne, donc la Russie, la Turquie, etc., Kazakhstan, oui. Et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. J'ai créé, formé pour ma gloire. Nous voyons bien donc que nous sommes, comme Israël, invités à glorifier Dieu. Et c'est la description qui se passe dans Apocalypse, dans un beau chapitre, où il y a Israël, et 12 000 de chaque tribu, les 12 000 de chaque tribu, et dans ce chapitre d'Apocalypse, après les 12 000, qu'est-ce qu'il y a? Il y a toutes les nations. Toutes les nations, chers amis, qui suivent. Toutes les nations qui adorent. Figurez-vous que je ne retrouve pas le chapitre, mais vous pouvez le trouver vous-même, c'est bien. Vous reconnaissez les mythes, j'ai les yeux qui piquent, sans doute les poubelles. 43, verset 8 à 13. Qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux et les sourds qui ont des oreilles, que toutes les nations se rassemblent, que les peuples se réunissent, qui d'entre eux a annoncé ces choses? Lesquels nous ont fait entendre les premières prédictions, qu'ils produisent leurs témoins, établissent leurs droits, qu'on écoute et qu'on dise, c'est vrai. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi. Donc vous, les prophètes, les saints d'Israël, et le serviteur que j'ai choisi, Jésus-Christ, afin que vous le sachiez. Afin que vous le sachiez, que vous me croyiez, et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Après moi, il n'y en aura point d'autre. C'est moi, moi qui suis l'Éternel. Et à part moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé et prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera? Ainsi parle l'Éternel, votre Rédempteur, le Saint d'Israël. Voilà, vous avez ici le contexte. Je vais dire la volonté divine du Père qui entoure le Fils en l'envoyant sur la terre et qui l'entoure tous les jours de son ministère sur terre, qui l'entoure sur la croix, qui l'entoure au tombeau, qui l'entoure à la résurrection, qui l'entoure montée au ciel et qui l'entoure encore aujourd'hui. La volonté divine du Père entoure Christ, même à son retour quand il établira le jugement des brebis, les vraies et les fausses. Chers amis, nous allons arrêter aujourd'hui. Nous ne sommes pas loin du compte. Par le Saint-Esprit seul, ce petit homme de Nazareth, Jésus, par le Saint-Esprit seul, fut conduit, par le Saint-Esprit seul à parler, par le Saint-Esprit seul a obéi. Satan ne l'a pas dévié de sa trajectoire. Par le Saint-Esprit seul, il agit en nous. Par le Saint-Esprit seul, il nous réunira tous les saints, tous ceux qui sont sauvés, pour nous préserver de l'Antichrist. Par le Saint-Esprit seul, il nous enlèvera. Par le Saint-Esprit seul, il établira son royaume quand il aura brisé l'Antichrist. Le Fils de Dieu est venu sur terre, il est dans la puissance du Saint-Esprit. S'il vous plaît, méditez cela. Et pour nous, l'adoration est agréable à Dieu. L'adoration vis-à-vis de ce Fils, de ce cadeau exceptionnel de Jésus, son Fils, dans nos vies, l'adoration est agréable à Dieu. L'adoration est la seule attitude, le seul comportement que nous puissions avoir. Et, au-delà de l'adoration, la confession de son nom, la confession de Jésus, auprès des hommes, dans la société, partout. Je crains, chers amis, parce qu'on obéit trop facilement aux autorités de ce monde, et qu'on se tait trop facilement, on ne parle pas de Jésus. Surtout en France, je crains que cette absence de confession de foi ne soit dangereuse lorsque Jésus va revenir. Il faut cesser de se taire. Dans d'autres temps de l'époque, les chrétiens donnaient leur vie parce qu'ils ont parlé du Seigneur Jésus. Et il est devenu courant de dire il faut obéir aux autorités. Et on se tait. Et parce qu'on se tait, on veut se rattraper autrement. Parce qu'on se tait, on veut se rattraper autrement. On va dans certaines assemblées où on voudrait avoir le don des langues, on voudrait avoir des extases, on voudrait avoir des charismes. Mais le premier charisme du chrétien, c'est d'adorer Dieu et son Fils Jésus-Christ et de le confesser. Le premier miracle de la foi, c'est Romains 10. C'est fondamental. Lorsqu'on échappe à cette trajectoire que Dieu nous a donnée, oui, on recherche des subterfuges, des ersatz, des opérations séduction pour se tromper soi-même. Lisons Romains 12, 10. Romains 10, verset 8. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. La parole, c'est Jésus-Christ. C'est la parole de la foi que nous prêchons. La parole à laquelle nous adhérons entièrement, pas à moitié, que nous prêchons, Kérusso, proclamons. Si tu confesses, c'est aussi Kérusso, tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il est immanquable que l'attitude du sauvé est de confesser Jésus.
Pas seulement dans l'assemblée,
c'est pas d'abord pour confesser Jésus dans l'assemblée et rechercher des phénomènes merveilleux. C'est avoir le courage d'être enfant de Dieu dans la société. Et pourquoi? Continuons à lire. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il y a eu trop de confusion depuis quelques dizaines d'années. On a pourri nos églises avec toutes sortes de soi-disant phénomènes de bénédiction. Mais dans la société, on était bien sage et rangé derrière les autres. Et on ne faisait pas front devant l'athéisme et le laïcisme. Il n'y a aucune différence en effet entre les juifs et les grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc vous voyez que notre engagement pour Jésus-Christ est absolument indispensable. Il fait partie intégrante de notre condition de sauver. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Si les chrétiens se taisent, c'est ça que ça veut dire. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Comment pourrait-il y avoir des pasteurs, des évangélistes, si dès leur naissance, les enfants sont freinés et ne sont pas invités à servir le Seigneur pour proclamer la bonne nouvelle? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Tous n'ont pas obéi la bonne nouvelle, vous voyez? Aussi Ésaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» Quand Ésaïe dit cela, c'est simplement une vérité permanente, un constat permanent, la défection spirituelle du témoignage. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je dis, n'ont-ils pas entendu? Si, au contraire, leur voix, donc des apôtres, les disciples de Jésus, est allée par toute la terre, leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Chers amis, nous sommes dans une condition aujourd'hui, en 2022, où nous devons prendre position. On ne peut plus se cacher. Je vous invite à réfléchir à tout cela. Pas par orgueil il faut parler, mais le courage de la foi, la force d'aimer Christ. La force d'aimer Christ, c'est la force par le Saint-Esprit. La force de parler, c'est par le Saint-Esprit. C'est pas par toupet, par audace, par rébellion contre les autorités. Comment le christianisme a-t-il pu se développer dans l'Empire romain alors qu'on le persécutait à outrance? Comment se fait-il qu'il y a tellement de chrétiens qui apparaissent dans les milieux musulmans et pays musulmans, où on les rejette? Et comment se fait-il qu'en Europe, pour un peu, pour un rien, on se tait? Chers amis, frères et sœurs, debout, sainte cohorte, debout, sainte cohorte de Dieu. Amen. Amen.